Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la victoire! C'est magnifique!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène dans un continent qu'on ne découvre pas assez, qui est clairement sous-coté, qui est souvent en plus fait peur. Et en plus, on va le découvrir, tu vas voir, de façon très, très spéciale. On part en Afrique et on ne part pas juste faire un petit safari en Afrique du Sud ou découvrir le Maroc, qu'on connaît bien, évidemment. Là, on part dans des pays où tu ne connais pas. On part genre en Mauritanie, on part genre au Nigeria, on part dans des pays de malades. On part avec Guilhem, il est parti avec sa kangou, il n'a pas le temps, il est parti en solo. C'est juste incroyable ce qu'il fait. Et je suis impatient de plonger dans ce podcast parce qu'on est en plus en train de l'enregistrer en direct pendant qu'il est en train de faire ce trip. Guilhem, comment ça va?
Ça va très bien. Merci pour ce podcast.
Écoute, c'est génial ce que tu fais. Alors déjà, remets-nous en situation. Là, tout de suite, maintenant, t'es où? Dresse-nous le décor.
Je suis à Kinshasa, en RDC.
Voilà, République démocratique du Congo, Kinshasa. Là, on est dans le dur. Hein, on n'est pas en Tanzanie, sur son petit 4x4, en train de regarder les gnous en safari. T'es vraiment en train de découvrir la belle Afrique, celle du quotidien. Et j'aimerais justement qu'on revienne un peu en amont sur qu'est-ce que ce projet-là, comment tu l'as préparé et qu'est-ce que tu vas faire au total, si tu peux nous le redécrire un petit peu, s'il te plaît.
Alors, je n'avais rien préparé. J'ai juste eu mon permis voiture à l'âge de 23 ou 24 ans, je crois.
Ah, et, okay.
Ouais. Et j'avais toujours rêvé de faire l'Afrique en voiture. Donc, j'ai pris en un mois, j'ai acheté la voiture, je l'ai équipée avec ma mère. On l'a aménagée à l'intérieur pour économiser sur les hôtels. Ouais. Et après, je me suis lancé vraiment comme ça.
Attends. T'habites où?
Dans le Var.
Dans le Var. Donc, tu es parti du sud de la France et tu as dit, de toute façon, moi, j'ai envie d'aller rouler en Afrique. C'est ça.
J'irai le plus loin possible.
Ok. Alors, quand on dit le plus loin possible, il y a deux paramètres dans ces cas-là. Et tu vas me dire si tu me confirmes si c'est vrai ou pas. Il y a le paramètre mécanique. Tant que la voiture, elle est là, potentiellement que j'arrive à la réparer, on continue. Et tant qu'il y a de l'argent pour mettre de la manger dans mon assiette et du gasoil dans la bagnole. Est-ce que c'est ça?
Oui, mais il y a un troisième paramètre, c'est que je ne savais pas si j'arriverais à passer le Nigeria et le Cameroun. C'était vraiment la grande question.
Déjà, le mec, il drop des noms absolument incroyables. Donc déjà, t'es parti d'où? J'imagine que t'as fait quoi? T'as fait Tétouan? Enfin, t'es parti, t'as pris le ferry, t'as pris le bateau. Raconte-nous un peu comment s'est passé le périple. Jusque-là, t'as fait quoi en fait? Et ça fait combien de temps que t'es parti?
En fait, je suis parti du Var, donc j'ai fait l'Espagne et le Portugal. J'en ai profité pour visiter un peu. Après, ouais. J'ai pris le ferry jusqu'au Maroc. Et du Maroc, yes. J'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest. Ça fait 13, là je suis à 13 ou 14 pays, peut-être 15.
Voilà, alors, un par un. Je pense, attends, Guilhem, parce que je pense que s'il y a bien, et moi y compris, hein, une géographie qui est malheureusement méconnue, c'est oui. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest, surtout qu'il y en a des petits, il y en a des grands. Vas-y, fais-nous une name dropping, c'est quoi, par quel pays tu es passé, dans l'ordre?
Ok, dans l'ordre. J'ai fait Maroc, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, ouais. Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Congo-Brazzaville, Cabinda et RDC actuellement.
Oh là là, le mec, c'est magnifique. Et tu sais que j'ai envie de prendre un raccourci immédiatement en attendant, parce que souvent je suis, ouais, comment ça s'est préparé administrativement, qu'est-ce que tu as mis dans la voiture. Là, en fait, tu as cité un pays qui, en tout cas pour moi, a toujours rimé avec plein de stéréotypes à la fois fous et négatifs et enivrants. Et méconnu, c'est le Nigeria. Tu vois. Nigeria, c'est à la fois le pays des footballeurs qui font rêver parce qu'ils ont des tricks de malade techniquement et finalement, les gens ils connaissent le Nigeria juste pour l'équipe de foot. Et à côté, on le connaît aussi parce que c'est que, en tout cas, ça a la réputation d'être un des plus dangereux pays d'Afrique, notamment Lagos, qui est la capitale, avec certaines guérillas aussi, des gros guerrieros, on va dire, au nord. Tu as passé combien de temps là-bas? Parle-nous du Nigeria, s'il te plaît. Parle-moi du Nigeria.
Alors, il faut peut-être que je parle de comment je voyais le Nigeria avant d'y arriver. Parce que moi, ouais. J'avais prévu de passer sûr. Le Nigeria en deux jours, vraiment tout droit, à dormir.
Donc, tu étais en même flippance que moi alors. Tu es en même flippance qu'entre ouais. guillemets, moi, j'avais. Enfin, là, j'ai un peu en tête, c'est un peu ça.
Ah, mais vraiment, je pensais que j'avais une chance sur deux de me faire enlever. Hein. J'avais même pensé, même pensé à changer de plaque d'immatriculation et me couvrir la tête d'un ruban pour pas qu'on voit que je suis touriste. T'imagines la parano quand même.
Mais, non, mais en fait, je pense que je serais vraiment dans, malheureusement, les seules infos. Parce que le problème, c'est que tu vois, par exemple, je suis allé en Iran. En Iran, bah, tu vois les médias, c'est OK, tu vas te faire enlever, il y a des terroristes, c'est insécure. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des voyageurs qui vont en Iran quand même depuis pas mal d'années et tu peux avoir un autre son de cloche. Le problème du Nigeria, c'est que tu vois les médias, mais il n'y a pas un truc qui te dit « Attends, super sympa, j'y suis allé, franchement, non, c'est pas du tout comme tu crois. » Tu rencontres personne qui a été au Nigeria en vrai. Ou peut-être que tu as rencontré un expat qui a été dans une… qui a bossé pour les BP, les ESSO, dans les trucs pétroliers, tu vois. Donc en vrai, il n'aurait aucune… et peut-être même un avis très négatif sur ce pays. Donc, je te comprends, en vrai. Je te comprends. Et là, tu es à la frontière. C'est quoi, d'ailleurs, le pays sur la frontière ouest pour, avant de rentrer au Nigeria? C'est lequel? C'est le Togo?
C'est le Bénin.
C'est le Bénin. OK, c'est Bénin. Donc, tu es au Bénin, qui est connu pour être un pays assez tranquille et safe, si je ne dis pas de bêtises, sans y être allé. Oui. Donc, je dis pas de bêtises, ouais. Et là, tu es aux portes de la frontière en train de te dire… Welcome in hell, quoi. Genre, ça va être le bordel. Là, je rentre en guerre. Comment ça se passe dans ta tête? Vas-y, fais-nous le topo.
Bah, j'étais parti pour faire ce que j'avais en tête, hein, vraiment tracé en deux jours jusqu'à la frontière du Cameroun. Ouais. Et puis finalement, bah, j'ai senti l'ambiance. J'ai senti les Nigérians qui sont adorables. C'est vraiment des gens adorables.
Déjà. Alors, mais qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce que tu as senti l'ambiance? Entre sentir l'ambiance, entre guillemets, te dire c'est cool, mais deux jours de traversée, ils vont pas me faire flipper et j'ai envie de rester plus longtemps. Ça a été quoi les facteurs qui t'ont fait rester plus longtemps concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé?
En vrai, moi, je marche beaucoup au feeling. Hein. À partir du moment où j'ai senti qu'il ne m'arriverait rien, tu vois, même à Lagos, je me suis baladé tout seul dans les rues, tranquille.
Ah ouais?
Il y a des regards un peu lourds, mais ce n'est pas des regards méchants, c'est des regards curieux. J'ai même fait Makoko, qui est le bidonville de Lagos. C'était incroyable. Donc après ça, forcément, quand je suis sorti de l'école, je me suis dit, ça va en fait.
C'est les vacances après.
Ouais. Ouais.
Dans ces cas, j'adore quand tu dis que tu es à l'instinct, justement, tu es sur du ressenti, peu importe que tu sois dans un lieu qui est soi-disant sûr ou l'inverse, tu vas vraiment sur le feeling de l'instant. Comment justement dans ces cas-là, tu vis le moment, c'est-à-dire que tu traverses la ville avec ta bagnole, c'est comment tu le découvres, est-ce que tu prends aussi la température entre guillemets ou des bonnes infos auprès des locaux, parce que il y a un moment le feeling, il faut aussi le confirmer, des fois on est peut-être dans notre bulle, comment ça se passe concrètement?
Ouais, c'est ça, j'arrive, je débarque, je visite à pied et je sens tout de suite l'ambiance. Il y a eu quand même un quartier que j'ai senti un peu moyen à Lagos, quartier qui était un peu populaire, mais en dehors de ça, non, vraiment, j'ai vraiment senti une bonne ambiance. Et je pense que c'était même si ça restait une bonne ambiance, c'était quand même la pire du Nigeria, parce que dès que tu sors de Lagos, c'est encore beaucoup mieux. Voilà.
Alors, on va très vite sortir de Lagos. Là, tu ne voyages pas avec un guide du routard. Ça, on a bien compris. Comment, dans ces endroits-là, tu réserves tes hébergements? Est-ce que finalement, il y a aussi, bon, peut-être à Lagos, il y en a des hébergements sur Booking? Comment ça se passe sur ce genre d'endroit, peut-être un peu touchy à la base en tout cas?
J'ai pas du tout dormi à Lagos en fait, hein. J'ai dormi à l'extérieur de la ville. C'est assez facile d'accès parce qu'il y a une bonne route. Mais j'ai dormi en brousse, quoi, comme on dit.
Ah, mais en fait, à chaque fois, tu dors dans ta voiture, c'est ça en fait? Je dis une connerie, mais tu dors dans ta voiture pour justement économiser les logements, c'est ça?
Voilà, sauf dans les grandes villes, mais cette fois-ci à Lagos, je l'ai pas fait. Non, je vais dormir en brousse.
Alors. Comment ça se passe que il y en a qui aiment bien, tu sais, en ce moment, en plus avec la pandémie, c'est un peu la mode de la van life. On s'achète un van, on le retape et puis on fait des petites vadrouilles. Et puis on va sur Park for a Night pour connaître un petit peu des endroits pour justement passer la nuit. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de spots recommandés sur Park for a Night au Nigeria. C'est quoi le process pour trouver un lieu pour dormir? À quelle heure tu y vas? Qu'est-ce que tu vas fouiner? Emmène-nous avec toi. Tu vois, imagine, on est un pote à côté, là, sur côté passager. Et là, tu nous briefes sur ce qui va se passer. Comment tu fais?
En vrai, c'est super intéressant parce que c'est parfois la galère. Des fois, tu tombes sur des spots de rêve et puis parfois, tu roules même de nuit. Trouver un spot de nuit, c'est vraiment la merde. Hein. Mais c'est ça, en fait. C'est un feeling. Moi, j'essaie de trouver des trucs qui ne sont pas trop loin de la route principale, mais cachés, parce que je n'ai pas envie de me faire embêter par la police le matin. Et comme ça, je ne suis pas loin de la route. Si jamais il y a un problème, il n'y a jamais de problème. Mais voilà, c'est plus simple, c'est pour partir le lendemain. Mais c'est un peu ce que je cherche, tu vois.
Et du coup, tu es plutôt près d'un petit village ou au contraire un peu éloigné? Parce qu'en fait, tu peux dire, ah, s'il y a un problème, je peux appeler entre guillemets du secours, mais peut-être que ça va attirer aussi les problèmes. C'est quoi un peu ton positionnement là-dessus?
Ouais, non, plus je suis éloigné des villages, mieux c'est. Déjà en
Ah,
termes
ok.
de sécurité, parce que quand il n'y a personne, bah, y a personne. Même si les
Ouais.
villageois, c'est jamais des gens qui vont te faire du mal. Mais c'est surtout aussi pour pas me faire rêver tout le temps, parce que eux, ils sont très curieux, tu vois, ils voient une plaque qui n'est pas d'ici. Souvent, ils me réveillent le matin à 6 heures, parce qu'ils sont très matinales. Moi, je suis éclaté. Bon, voilà, je préfère être tout seul, tranquille et dormir longtemps.
Je vois le truc. Coucou, salut, bah, qu'est-ce que tu fais là? Et justement, on parle du Nigeria, on parle des gens friendly. Raconte-nous un petit peu tu vois, des anecdotes qui est déjà un truc tout bête. À quoi ça ressemble le Nigeria en vrai? Si on met un casque de réalité virtuelle, là, tu vois, surtout les gens qui nous écoutent, ils mettent un petit casque de réalité virtuelle, ça ressemble à quoi? Vas-y, décris-nous un peu le truc.
Je dirais que le Nigeria, c'est bon, déjà c'est un pays très très grand, mais c'est majoritairement des rivières, une savane, mais une savane un peu verdoyante, de la terre orange-rouge qui sublime tout ça. Il y a vraiment des paysages fabuleux, mais et puis il y a aussi des régions qui sont très montagneuses avec des collines. C'est genre des
Ah ouais.
immenses rochers sans rien dessus, tu vois, vraiment comme si on avait posé un gros caillou au milieu de nulle part. Et ça
Ok.
couvre des paysages entiers. Oh, c'est très, très étonnant. Très,
Non.
très étonnant.
T'es en train de dire qu'en fait le rocher d'Uluru là, qui est super connu en Australie, eux, ils en ont plein là-bas en fait.
Ouais, mais c'est... je ne saurais pas comment dire. C'est comme une colline, mais c'est juste de la pierre, tu vois. C'est un truc qui n'existe pas. Enfin, j'ai jamais vu ça en France. Mais un truc rond comme ça, c'est que de la pierre. Il n'y a rien dessus, il n'y
Un
a pas de
méga
vie.
caillou géant en fait. C'est un méga
Ouais, c'est ça.
caillou géant.
Et
Sérieux?
puis, tu veux faire le toboggan de la mort dessus, parce que si jamais tu glisses, c'est fini pour toi, quoi. Mais
Ok,
c'est plutôt...
d'accord. Ouais, c'est des paysages vraiment atypiques. Et justement, quand tu t'enfonces un peu, tu t'es resté combien de temps au final? Est-ce que tu veux partir 2, 3 jours? T'es resté combien de temps?
Enfin, je suis resté 3 semaines,
Ah,
donc
ok,
à peu
d'accord. T'as kiffé. T'as kiffé.
près.
T'as kiffé. On
Kiffé.
peut dire que ouais, t'as kiffé. Raconte-nous justement ces anecdotes de qu'est-ce qui t'a fait rester? J'imagine que tu as rencontré des gens. Quand tu disais, ouais, il me réveille le matin, en tout cas, je pense que tu en as des dizaines et dizaines d'anecdotes, mais. Au Nigeria, raconte toutes les petites histoires qui te sont arrivées, qui sont cool. Bon, apparemment, il t'est rien arrivé de pas bien, donc c'est très très bien. Mais raconte-nous des petites histoires par rapport à ça, des rencontres. Emmène-nous avec toi.
Ouais. Bah, j'ai fait une rencontre vraiment dans l'Est quand je commençais à aller vers la frontière du Cameroun. En fait,
Ouais.
j'ai eu une panne avec la voiture et je suis tombé sur des jeunes qui m'ont guidé, tout ça. Il commençait à faire nuit et tout. J'ai dormi c'était une sorte de village, mais un peu avec un peu d'argent quand même, un grand village.
Ouais.
Et j'ai passé la soirée avec eux. Ils étaient adorables. Ils m'ont donné un bracelet que j'ai malheureusement cassé, malheureusement. C'était le bracelet des princes là-bas, qui était magnifique, blanc et noir.
Ok.
Et en fait, ils ont veillé sur moi toute la soirée. Bon, en vrai, c'était plus casse-bonbon qu'autre chose, parce que toutes les 2 heures pendant la nuit, ils venaient toquer à la porte, mais ils n'avaient aucun respect. Mais vraiment, là-bas. Mais c'était adorable, tu vois, ça venait d'une bonne intention. Bon, forcément, je ne me suis pas énervé.
Ouais, en fait, il te prenait. Il y a en fait, tu vois, ce côté, c'est ça que j'adore, parce que le peu que tu nous as décrit jusque-là dans ce podcast, c'est finalement l'image qu'on a un peu, tu sais, de ces pays-là, c'est que tu vas te faire emmerder, solliciter. Et là, en fait, tu es en train de nous dire que c'est tout l'inverse. Et à chaque fois qu'on t'a vu, on t'a pris un peu enfin, les personnes t'ont pris sous leurs ailes pour peut-être justement bah, prendre soin de toi, te mettre un peu à l'abri, faire attention si tu allais bien. C'est ça le process. En fait, comment ça se passe? C'est quoi ce que tu ressens en fait à chaque fois là-bas?
Ouais, je sais pas, c'est vraiment un feeling, c'est un feeling avec les gens, mais il y a autant de. En fait, la relation avec eux, c'est. Ils peuvent autant te donner que te demander, mais il ne faut pas le prendre mal. C'est vraiment de la mendicité qui est opportuniste. Et moi, on m'a demandé plusieurs fois au Nigeria de l'argent ou quelque chose. Et ce n'est pas du tout dérangeant, surtout que j'avais l'habitude avant avec la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une culture, en fait. Il faut s'habituer parce que nous, on est très complexé avec l'argent.
Ouais,
Mais
c'est
ça n'entache pas
intéressant.
les relations avec eux, tu
Ça se passe comment en fait? Décris-nous un peu un truc typique de dire finalement j'ai une super relation avec la personne, on a un bon échange, mais à un moment l'argent rentre en jeu. C'est quoi le scénario un peu typique, tu sais?
Bah, C'est une rencontre vraiment comme ça. Et puis, on discute, on échange nos noms, des fois nos Facebook. Sinon, pas mal Facebook au Nigeria. Okay. Et puis, il y a un feeling, il y a quelque chose. On va manger ensemble. De toute façon, en Afrique de l'Ouest, c'est souvent comme ça. Et c'est des gens, je sais que même si je reviens un ou deux ans après, j'envoie un message sur Facebook, je débarque dans le village et puis c'est reparti, quoi. Voilà, ouais. Mais je fais plein de rencontres comme ça.
Mais justement, pour la notion, quand tu disais d'argent, à quel moment ça rentre en jeu où tu dis justement, bon, ils te demandent de l'argent, etc., mais que ça fait partie un peu du process et que c'est pas grave, il faut pas mal le prendre, il faut passer juste au-delà et rester sur ses positions. Enfin, tu vois, à quel moment ça arrive?
Ah oui, c'est dès le début, en fait. Dès le début.
C'est-à-dire ouais. Comment ça se passe Salut, tu vas bien? Tu me donnes de l'argent? Je ne pense pas qu'ils font ça, surtout s'ils ont l'air bienveillants. Enfin, tu vois, comment c'est amené? C'est sous quelle forme?
Non, mais c'est vraiment brut. Hein. C'est, tu appelles comme ça, hey, « Hé, Leblanc, tu as de l'argent ?» Tu vois, et, tu dis, non. Le... mais après, ils rigolent, on s'échange. Enfin, c'est vraiment… ça commence par ça, et après, tu développes une amitié qui n'est absolument pas basée sur l'argent. Mais comme c'est une habitude, tu vois, c'est vraiment… On voit Leblanc, hein, on demande de l'argent, mais ça n'entache rien du tout.
Ouais, en fait, c'est presque plus la blague qu'autre chose, en fait. C'est presque le plus, vas-y, je te charrie, je t'attaque, entre guillemets, je t'attaque verbalement un petit peu avec ça. Et puis, si toi, tu me prends à la légère, que tu souris, que tu vas au-delà, au final, c'est là où l'aventure commence, c'est un peu ça.
Ouais, c'est aussi opportuniste parce que bah, forcément, si par exemple, je travaillais, que j'avais plein d'argent et que je donne comme ça, tu vois, lui, ça lui fait un petit billet pour acheter sa bière le soir, une de plus, tu vois. C'est pas quelque chose qui va changer sa vie, mais il sera content. C'est vraiment au jour le jour. Ouais. Mais si tu dis non, il va pas le plus mal, hein, jamais de la vie. Enfin, c'est pas du tout. Il y a aucun malaise là-dessus, aucun malaise.
Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est ce côté finalement, c'est un peu un jeu, quoi. C'est un peu un jeu. Tu te fais tester. C'est un peu ça en fait, parce que comme tu dis, il y a pas de, on ne prend pas de haut. Je pense que s'ils te le disent avec un sourire, ils jouent un peu avec toi. Et puis voilà, si tu arrives à jouer avec eux et de garder le sourire et que, bah, voilà, soit des fois tu vas lui payer une bière, soit pas. Ça marche bien. Mais tu vois, quand tu me parles justement de ce trip et de ces rencontres, comment… Là, on va rester un peu sur Nigeria, après on partira un peu sur d'autres pays, mais c'est quoi une de tes journées typiques quand tu te fais réveiller à 5 heures par le mec qui vient toquer à ta porte?
Bah, déjà, je prends un gros café.
Ah ouais?
Et après, je commence à taper la route. Et puis, j'ai des points sur mes cartes. Je m'arrête… Bon, des fois, je tombe sur un endroit, il n'y a pas de point, je n'avais pas prévu, et je m'arrête, je visite à pied, je fais un tour. Des fois, je rencontre beaucoup de gens parce que les gens, ils voient quelqu'un, un touriste, ils ne savent pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait ici, tout ça. Donc, ils viennent toujours me parler, savoir ce que je fais, tout ça. Et voilà, la journée, c'est ça en fait. Hein. Tu vois, je fais de la route, je découvre, je reprends la voiture, je fais un peu de route, je redécouvre. C'est un peu ça. Et puis le soir, je me pose et puis je rebelote.
Est-ce que justement, tu te fais souvent embarquer dans des aventures avec les gens, typiquement genre « Ah ouais, tiens, faut que je te présente mon cousin » et nanana, ou « Attends, mais t'as envie de voir ça, moi je connais quelqu'un qui a un truc, etc. » Ou est-ce que ça reste à chaque fois assez soft et finalement, c'est des rencontres sur le moment, mais qui ne t'embarquent pas ailleurs?
Bah, y a un peu des deux, hein. Mais la majorité, c'est sûr que ça reste soft. Y a aussi une sorte de… Même s'ils sont très chaleureux et tout, ils sont pas autant… Ils ne vont pas autant t'accueillir que dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, tout ça, tu vois. Il y a une sorte un peu de respect.
Ah. Alors, attends. Eh ben là, on fait marche arrière. On repart en Côte d'Ivoire. Attends, la Côte d'Ivoire, c'est… Attends, je ne suis pas fou, c'est avant ou c'est après la Nigeria? Non, c'est après. Non, c'est peut-être avant.
Non, c'est avant. Sur mon périple, c'était avant.
Ah, voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Raconte-nous des histoires où tu t'es fait embarquer dans des aventures géniales, tu vois, par des gars.
Ah bah, c'est pas que la Côte d'Ivoire, mais même depuis le Sénégal, c'est comme ça. C'est vraiment, tu rencontres quelqu'un, bah, mange avec nous, bah, dors avec nous. Ça enchaîne, tu vois, tout le temps. Ils sont vraiment adorables. C'est vraiment beaucoup plus du partage.
Là, ok, mais là, Guilhem, tu me files le menu. Bah, fais-moi rentrer, tu vois. Hey, écoute, on est derrière ta Kangoo, là. Tu as les portes arrière ouvertes, on a fait un petit feu, on a une petite bière. Raconte-moi des anecdotes dans le détail. Emmène-moi avec une anecdote.
Y avait un moment où je suis passé devant des motards en Côte d'Ivoire, je me souviens. En fait, il m'appelait, et pareil, toujours, c'était un peu pour me demander de l'argent, la boisson, tout ça. Et puis, je rigolais avec eux, j'ai dit non, j'ai rien. Et puis, je suis allé faire mon tour, je l'ai visité. Puis, au retour, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit viens, on mange ensemble. Puis, au final, on a passé 2 heures ensemble, on a fait des photos, tout ça. Puis quand je suis parti, c'était vraiment comme si je quittais une famille, quoi. C'était tous des jeunes à moto, adorables, vraiment. Mais c'est ça un peu partout. En fait.
Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, un truc tout bête, mais quand tu laisses ta voiture, t'as surtout une Kangoo, je crois que c'est pas la voiture la plus sécurisée du monde avec les Twingo. T'as pas peur contre l'ours, etc. Ou on t'a jamais rien volé? Un truc tout bête?
Non, pas du tout. Non, vraiment. D'ailleurs, des fois même, je me garde dans un village, je laisse les fenêtres ouvertes. Il y a une sécurité, ouais. En fait, hein, l'Afrique. C'est tant qu'il y a des gens autour, c'est comme en France, tu vois. S'il y a quelqu'un qui commence à voler, les autres vont lui tomber dessus. Hein. C'est pas genre il va voler le blanc, on laisse comme ça. Non, c'est pas comme ça. Surtout le blanc. Tu vois, c'est vraiment l'invité, tu vois, le mec qui est venu, tout ça. Ils vont tomber dessus à une vitesse grand V. Hein.
Oh bah, après, je pourrais leur comprendre qu'il n'y ait pas un très bon accueil pour les blancs, comme on dit, parce que bon, c'est pas comme si on avait fait des merveilles. Mais justement, au contraire, tu dis super bienveillant, super amical, super toujours un petit œil sur, effectivement, parce qu'en plus, tu as une plaque française. Donc, c'est pas comme si ça se voyait pas, quoi.
Bah oui, c'est ça, tout le monde le voit. L'ironie, un petit peu, enfin, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'avais peur de me faire braquer, de me faire déranger par un ami, tout ça. Et finalement, c'est eux qui ont peur. Tu vois, j'ai fini plusieurs fois au poste de police parce que les villageois ne savaient pas ce que je foutais là, si j'avais volé quelque chose, tu vois.
Tu blagues ? Mais t'as une tête de bandit, ouais. Guilhem. Moi, je te trouve. t'es louche. Franchement, t'es louche. Ils ont bien fait. Les rôdeurs comme toi avec leur Kangoo, là, ça charge une Kangoo, hein. Parce qu'on critique les Kangoo, mais t'en mets les trucs à l'arrière. Du coup, tu t'es retrouvé au poste.
Ouais, plusieurs fois pour vérifier mon passeport, tout ça. Après, ils me laissent partir en rigolant. Bon.
Ok, c'est juste le check. Mais pareil, les flics, ils te demandaient un petit billet ou pas ?
Pas tout le temps, ça dépend des pays, mais ça reste quand même assez commun, ouais. Mais dans ces cas-là, je ne crois pas qu'on m'ait déjà demandé de l'argent, dans ce cas-là précis, non, je ne crois pas.
Et c'est quoi, hormis le Nigeria, c'est... En fait, tu vois, j'aimerais qu'on revienne sur l'itinéraire, on va remonter tout en haut, et j'aimerais que tu décrives chaque pays, tu sais, un peu avec des mots-clés, parce qu'encore une fois, tu es passé dans des pays qui parlent à très peu de gens, et moi y compris, malheureusement, parce que je n'ai pas pris le temps encore d'aller visiter l'Afrique, l'Afrique centrale, et l'Afrique de l'Ouest, etc. Si on reprend les pays dans l'ordre, est-ce que tu peux me les décrire avec des mots-clés, je ne sais pas, genre paysage grandiose, dune, population, genre, je sais pas, tu vois, population accueillante, tu vois. Tu pouvais me refaire un petit topo sur chaque pays pour qu'on s'imprègne rapidement de ce que tu as pu vivre.
Je vais commencer par le Maroc.
Ouais.
Je trouve que c'est très riche en choses à voir, c'est magnifique. Les relations humaines sont incroyables. Il faut s'écarter du circuit touristique. Maroc. Mauritanie, ouais. C'est des paysages fabuleux de dunes, des relations humaines aussi incroyables avec une religion musulmane très différente et très accueillante.
Très différente en quoi ?
En fait, moi, les Mauritaniens, je les appelle un peu les bouddhistes des musulmans. Ils sont, tu vois, ils portent des grands boubous, ils sont très calmes, très posés, ils sont très accueillant, c'est pareil. Ils te voient passer, eux, ils prennent le thé, ils vont te dire, viens prendre le thé. Combien de thé j'ai pris par jour avec eux, c'est même trop.
Oh, ils sont zen, c'est les mecs chill. C'est les mecs chill de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça ?
Ah ouais, c'est des musulmans différents, tu vois, du Maroc. Et ils ont ce côté très paisible, très, très moine, tu vois. Enfin, vraiment, ouais. je trouve qu'il y a un côté bouddhiste, quoi, vraiment.
Magnifique. Et du coup, je sais que la Mauritanie, parfois, c'était aussi connu pour avoir un peu de problèmes de sécurité sur leur route, malheureusement, à cause de Boko Haram et choses comme ça. T'as pas senti de problème par là-bas ?
Alors, pas du tout. Et je me suis même renseigné sur place. Ouais. Et on m'a raconté que le président, depuis les attaques de 2008 et 2009, il fait vérifier le désert de partout. Donc, il n'y a aucun risque. Il n'y a jamais eu une seule attaque depuis 2008 et 2009, d'ailleurs.
Et c'est ouf. Et tu vois, il y a ça qui reste en tête, quoi, tu vois, c'est ça qui est malade. Et je suis sûr qu'ils en pâtissent encore. Ils en pâtissent encore, c'est sûr.
C'est ça. Et puis, il y a aussi le Quai d'Orsay qui a un petit peu repoussé sa zone rouge en Mauritanie. Mais il y a toujours une zone rouge qui n'est pas vraiment légitime, tu vois. Parce qu'il faut être sur le terrain.
Putain, et attends, mais il y a un truc con. La Mauritanie, moi, c'est aussi, bon, même si je ne suis pas du tout fan de cette course, le Paris-Dakar, c'est quand même des longues routes, longues, longues, avec beaucoup de sable et pas grand-chose. Là, on revient sur l'aspect technique, mais quand tu fais un plein, tu as des jerrycans aussi avec toi, de flotte, d'essence, de... Parce que là, quand tu es au milieu de nulle part, la prochaine station-service, ça doit même pas indiquer, non ?
Non, de toute façon, elles ne sont jamais indiquées, mais... ce qui est bien, c'est que j'ai un Kangoo qui consomme du 3 litres, 3-4 litres au 100, tu vois.
Magnifique.
Plein, faire 1000 km. Donc, non, en général, j'ai jamais eu de problème jusque-là, mais j'en aurai peut-être plus tard en Namibie.
Voilà, c'est des grosses distances. Mais encore une fois, tu n'as pas de jerrycan ? Tu n'as aucun jerrycan ?
Non. Je ne suis pas quelqu'un de prévoyant. Hein.
Le mec est honnête. Moi, je suis quelqu'un vraiment pas prévoyant du tout. Non, j'y vais vraiment au feeling. Je compte beaucoup sur ma chance. Et puis voilà, et apparemment, ça marche archi bien. Du coup, pas de bidon de flotte. Mais attends, t'as un bidon de flotte quand même. Tu pars pas avec ta goutte de Quechua non plus.
Non, j'ai environ 30 litres d'eau, de bidon 15 litres, 15 litres.
Ah. Voilà. On gratte un peu. Il y a des bidons quand même.
Oui, de l'eau, oui.
Et d'ailleurs, bon, maintenant qu'on est dans l'habitacle, tu sais, dans la fameuse Kangoo, gentiment aménagée avec l'aide de ta maman, il y a quoi en gros, t'as quoi en gros techniquement dans ta Kangoo en objet, tu vois, tu t'es équipé de quoi? Et vu que t'es pas prévoyant, j'imagine, t'as un couteau, une fourchette, et pas plus, des petits trucs, mais c'est, si tu veux faire un petit inventaire, il y a quoi dedans?
Ah, c'est super rustre. Hein. il y a le gaz, il y a une casserole. J'ai même pas de poêle, ouais. J'ai juste une casserole.
Moins de vaisselle.
Vaisselle, voilà, je réutilise toujours. Et quelques couverts. Et après, surtout du matériel. Bon, j'ai l'ordinateur, l'appareil photo. Okay. Et c'est tout. Hein. J'ai un oreiller, un matelas de transat. Voilà.
Un matelas de transat, c'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que j'ai acheté un matelas en France de transat parce que c'était la bonne dimension par rapport au lit que j'ai construit. Et
de transat, les petits trucs en mousse là pour les transats dedans. Ah, le mec, ok, ça coûte 10 balles. Allez, c'est parti, regarde là. Et c'est un truc tout bête, mais justement, ok, tu dors dans ta bagnole. Tu finalement, les grosses dépenses, c'est l'essence, c'est gasoline. Tu dépenses combien à peu près par mois jusque-là depuis le début? Bon, même si j'imagine que les pays ne se ressemblent pas tous, mais c'est quoi pour ce style de voyage-là le budget mensuel?
Oh ouais, c'est compliqué parce que ça dépend des visas, ça dépend de beaucoup de choses.
Ah, ça, c'est des visas? Putain,
c'est vrai. Les visas, c'est cher. Hein,
parce que... Les visas, c'est quoi? C'est 60-80 balles?
Oh, ça dépend, hein, parce que tu vois, le Nigeria. Pas comme ça, hein. Déjà, c'est très compliqué. Et moi, je suis passé un peu par des astuces, quoi. J'ai eu un visa business pour passer et ça m'a coûté près de $300. Tu vois.
Ah, yes. Et attends, et ça, tu le fais dans l'ambassade au Bénin, dans le pays d'avant, c'est ça?
Justement, non, parce que le Nigeria, c'est très, très compliqué. J'ai fait toutes les ambassades de l'Afrique de l'Ouest et ils m'ont tous dit non.
Ouais.
Et apparemment, il y en a une ou deux qui... Donc, je suis passé
c'est
par
lesquelles?
Je crois qu'il y a de l'autre côté, tu vois, c'était pas de mon côté, donc quand tu viens du sud, tu peux le faire, il me semble, en Namibie. Il me semble, Namibie ou Angola.
Tu peux le faire, non, mais balance l'astuce, personne viendra te mettre en taule, hein, de toute façon, Guilhem. Comment tu l'as fait? T'as payé un mec, t'as lâché un petit bifton, c'est ça, pour avoir un espèce de truc où c'était à peu près. Comment t'as fait?
Exactement, ouais, on m'a donné un contact grâce à des gens qui avaient déjà ce contact. C'était un colonel à la frontière entre Bénin et Nigeria. Donc, j'ai rencontré sur place, on a discuté, j'ai donné son petit billet forcément et lui, il a fait semblant de me créer un business et de me faire un visa business du coup.
Putain, génial, mais t'as pas eu d'emmerde pour ressortir? T'as fait un truc un peu quand même sur le passeport, papa ou...
C'était marqué sur le visa business. On a changé une seule fois. Mais comme c'est visiblement une astuce connue, le mec, il a appelé ses supérieurs et ses supérieurs lui ont dit non, laisse-le passer.
Ok, t'inquiète, c'est mon pote colonel, viens pas foutre la merde là-dedans.
Voilà.
Non, mais bien sûr, ça fait partie du game, hein, j'ai pas de... Au contraire. Et sinon, sur les autres qui sont peut-être plus simples d'obtention, tu les faisais justement où? C'était un pays avant à chaque fois? Comment tu te débrouilles pour les visas?
Ouais, en vrai, moi je suis parti, mais j'ai fait aucun visa en France, j'ai fait que sur le long. Et c'est souvent le pays avant, mais le mieux c'est quand même de se renseigner. Alors je donne un petit tip comme ça, il y a une application qui s'appelle IOVANLANDER,
Donc, on mettra ce lien dans la description du podcast, parce qu'à mon avis, ce n'est pas évident de retenir ça.
C'est très utile pour voyager en Afrique. En fait, tu vois un peu tout, et y compris les ambassades, avec les expériences des gens qui y sont passés. Donc, ils te disent si c'est possible ou pas. Et si ce n'est pas possible, il faut que tu prévois avant, tu vois, que tu trouves une autre solution.
Oui, parce qu'effectivement, et ça, même si on part un peu au feeling comme toi, il y a un moment donné, si ton passeport et ton visa ne passent pas, ils ne passent pas. Et le problème, c'est que des fois, tu peux pas non plus faire le tour. Donc s'il y a au moins un petit truc à se renseigner le soir, quand on a fait sa journée, traîner un peu avec la 4G, c'est pour checker quand même les visas. Tu confirmes, c'est toi le pro.
Ah oui, complètement. C'est un truc, c'est très compliqué, surtout que chaque ambassade a son propre délire, quoi. Il y en a une qui peut t'accepter, l'autre qui va te dire non. Des fois, ça dépend du jour, ça dépend de sur qui tu tombes.
Je suis en train de tilter, Guilhem. Tu es en RDC. Je suis allé en RDC. Moi, je l'ai fait depuis l'ambassade RDC, République démocratique du Congo, donc en France. On a mis, je ne sais plus, ça a dû mettre 2 mois à l'avoir. Et je l'ai eu, celui de mon pote, je l'ai eu la veille de partir. J'ai eu la veille sur le fil. Vraiment, je dis, mec, je pars demain pour une mission humanitaire. Enfin, lâche-moi mon truc, quoi. Enfin, le gars, il s'en foutait et tout. Mais à la fin, je l'ai eu. Comment tu as fait pour l'avoir, toi? Toi, tu l'as fait sur place. Enfin, tu l'as fait dans quelle ambassade? Est-ce que ça a été plus simple, finalement, sur place? C'était quoi le game?
Bah, je te donne aussi un tip, c'est cadeau.
Ouais, vas-y. Ouais.
Tu vas au Congo-Brazza. Là-bas, tu fais un visa résident. C'est pareil, il faut le contact, mais on te retrouve partout des contacts. Tu fais un visa résident comme si tu travailles là-bas. Et à partir de là, tu peux avoir ton visa RDC sans problème et pour moins cher en plus.
Ça, c'est des petits trucs comme ça. Tu vois, c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo. En fait, ici, tu rentres, tu as le petit champignon magique. Tu sais, c'est comme dans Mario, il y a des petits passages secrets comme ça qu'il faut connaître. Et après, c'est beaucoup plus facile. Justement, tiens, là, tu es quand même à Kinshasa, tu es en RDC. Tu es quand même dans le dur. Comment ça se passe, justement? Parce qu'il y a quand même des pays où il ne faut pas blaguer, il y a quand même des pays où, même s'il faut totalement déconstruire les stéréotypes négatifs qu'on a dessus, merci, grâce à toi au Nigeria, on le voit différemment. Comment ça se passe quand tu es au volant, en vrai? Tu sais, quand tu arrives en RDC, mais j'imagine dans chaque nouveau pays, tu as une nouvelle peut-être appréhension, un nouveau feeling. Tu vois, qu'est-ce qui se passe quand tu es au volant, en vrai? Mais pareil, on se retrouve côté passager. Dis-nous ce que tu ressens.
En vrai, le Nigeria a changé toute ma vision de quand je rentre dans un pays. Mmh. Parce que avant d'aller en RDC, tout le monde m'a dit t'es sûr d'y aller, c'est dangereux, tout ça. Et vraiment, j'ai débarqué en sifflotant. Et j'ai comme d'habitude, j'ai senti la température. Mais je savais très bien que le danger en RDC, c'était quand même situé dans certaines régions. Et que là où je suis, bon, ça va, quoi. Entre Congo-Brazza et Kinshasa, il n'y a pas plus tranquille. Hein. Vraiment, c'était nickel. Rien à dire.
Le mec est au KLM et c'est magnifique. Non, mais c'est magnifique. Tu vois, genre, je trouve ça formidable. Je fais un gros bisou aussi à ma pote Sandy Ben Africa qui est en train de retraverser, de redécouvrir son continent. Et qui crée des contenus incroyables et qui déconstruit beaucoup de choses et qui justement apporte un petit peu de fraîcheur sur ce continent, tu sais, qui est très peu découvert, un peu en mode sac à dos. Et elle fait des choses incroyables en tant que femme renoin qui voyage seule, et je trouve ça incroyable. Mais aussi, toi, tu le déconstruis d'une autre façon avec le petit Babtou qui se balade de façon archi safe, archi cool avec sa petite bagnole en Afrique. Et en vrai, c'est formidable. Merci, franchement, je trouve ça trop cool. Et c'est quoi un peu les highlights? On parle un peu américain ici, sur ce podcast. Les grands moments de ce road trip, c'est quoi? Qu'est-ce que tu gardes un peu en tête? Tu dis, là, en Mauritanie, je sais pas, c'est le thé avec tel bédouin, je sais pas, coucher de soleil. En Côte d'Ivoire, je sais pas, c'était la fête où on m'a invité à un mariage. Enfin, tu vois, j'en sais rien. C'est quoi un peu les highlights que tu retiens de ça?
En vrai, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup.
Balance. Alors, fais pas le mec qui dit j'en ai beaucoup et qui n'arrive pas à me sortir un exemple.
Mais le plus forcément, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce passage entre le Nigeria et le Cameroun qui m'a fait peur du début à la fin, hein, vraiment. Depuis que j'ai quitté la France jusqu'au Nigeria, je ne savais pas si j'allais passer. Et d'avoir passé ça, je m'étais même dit, si je passe, peu importe mon état, peu importe ma gueule, je vais prendre une photo, tu vois. Et j'ai cette photo. C'est vraiment, je l'ai fait, tu vois. Je suis allé voir jusqu'au bout et c'était décisif pour la suite de l'aventure parce que si je passe pas, ben, demi-tour, j'ai pas le choix. Donc ça, c'était vraiment une grosse, grosse highlight pour moi. Quoi.
Parce que oui, parce que aussi, on peut pas passer, je crois que tu peux vraiment pas passer par le Niger. Pour le coup, là, c'est vraiment temps d'axe. Parce que le pays, ouais. Tu peux pas contourner au nord parce que c'est le Niger et là, il faut plutôt être armé, être ambiance révolutionnaire. Et par le sud, c'est par la flotte. Donc, après, c'est peu, ouais. Bon, tu as des moyens, mais c'est un peu relou aussi. Il y a la mer, quoi. Hey, mais attends, tu es passé par le Liberia et la Sierra Leone ?
Non, pas du tout. En partie parce que okay. J'ai un petit budget et que c'est des pays qui demandent $150, je crois, pour le visa. Et pour la taille, ouais. C'est vrai qu'il me dit bon, je peux pas tous les
pour
faire.
La taille. Attends, ouais. Pour la taille, non, c'est pas rentable. Tu vois, en termes de ratio, mètre carré, tu vois, budget, non. C'est beaucoup, les loyers sont beaucoup trop élevés en termes de visa. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je sais que, si je ne dis pas de bêtises, tu as aussi, j'ai un peu zioté ce que tu faisais, parce que ça, je trouve ça incroyable ce que tu vis comme aventure. Et encore une fois, bravo. Et je sais que tu as chopé le palu, si je ne dis pas de conneries, ou au moins que je dis une grosse connerie.
Trois fois ou quatre ? Trois fois, je crois.
Comment ça, trois fois ? Je comprends pas ce que tu dis en fait. Tu as fait trois crises. Tu l'as chopé une fois et tu as refait des crises. Ou tu l'as rechopé genre from what?
Non, non, mais ça aussi, c'est une idée reçue parce que moi, j'ai passé, c'est une anecdote sympa, j'ai passé un Noël terrible, vraiment le 24, parce que ça faisait une semaine que j'étais affecté du palu. Et moi, je croyais que c'était une. Je ne sais plus comment on appelle ça, l'inverse d'une gastro. Enfin, c'est pas important.
Et.
Pardon?
Pas être dysenterie, c'est ça que tu pensais avoir un truc
non,
comme ça.
Tu peux pas aller aux toilettes. Comment ça s'appelle déjà?
Ah, tu es constipé, c'est une constipation, une petite constipation.
C'était ça en fait. Et jusqu'au dernier moment, quand j'étais vraiment KO, j'ai trouvé un ange qui a pu me conduire à l'hôpital parce que j'étais même pas en état de conduire. Et là-bas, on m'a dit, tu as le palu. Et comme on m'a tellement fait peur avec le palu, moi je me suis dit, c'est bon, je suis mort, au moins je le garde à vie et je reste à l'hôpital, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, on fait quoi maintenant, mec? Une voix tremblotante, tu vois, j'étais en train d'accepter ma mort. Et elle m'a dit, on fait trois piqûres, je serai libre. Je dis, quoi? Libre à vie. Elle n'a pas compris, on a commencé à rigoler, je lui ai expliqué. Mais en vrai, le palu, si tu le soignes avant qu'il devienne sévère, quelques piqûres et c'est terminé.
Hein. Fiche ma gueule. Attends, what? Attends, le mec, attends, t'en as pas marre de déconstruire toutes les idées reçues qu'on a sur tous les trucs de l'Afrique? Attends, c'est pas possible, t'es en train de me dire. Que le palu, tu trois petites picouses. Ah bah voilà mon gars, tu l'as pris à temps, tout va bien, allez, hop, c'est reparti. T'es sérieux là?
Exactement. Bah là, si je fais un test, je vais être négatif, il n'y a plus rien dans mon corps. Hein. Pourtant, je l'ai attrapé trois fois.
Attends, mais il y a peut-être plusieurs palus. Il y a peut-être un neuropalu vénère, un peu dopé, non?
Non, il y a peut-être ça. Là, c'est le palsiparum, c'est le plus dangereux et le plus commun en Afrique. Je crois que c'est 95% des infections. Non, c'est le même. Hein.
Ah, c'est le même, c'est le vénère, d'accord. Et pam, boum. Et tu l'as chopé. Trois fois, mais attends, mais mec, tu mets jamais de chemise ou de manche longue le soir? Qu'est-ce que tu fous? T'as pas une moustiquaire dans le kangou? Comment ça s'est passé? Tu l'as chopé où?
En fait, non, parce que quand je dors en brousse, j'ai quasiment aucun risque de l'attraper, puisque ça se véhicule d'homme à homme, tu vois. C'est surtout quand je suis coincé à un endroit, donc là, quand j'étais coincé en Côte d'Ivoire sur le parking des douaniers, là, c'est là que j'ai chopé la première fois. La deuxième, c'était en ville, je sais plus où. Et la troisième, c'était à Pointe-Noire, là, à Brazzaville.
Tu le chopes en ville, le palu?
Tout le temps. Ah, en brousse, c'est quasiment pas possible, à moins qu'il y ait quelqu'un. Vraiment, il y a peu de chance en brousse, très peu de chance.
Dans les villages, et finalement, il y a assez peu de contamination, et vu qu'il n'y a pas une densité de population, parce que je sais que le palu, c'est un type de moustique qui est en plus un moustique femelle, donc tu as une chance sur deux, donc machin. Donc en vrai, c'est un pourcentage de chance qui est soit plus ou moins grand, soit plus ou moins élevé. Donc, ok, si je comprends bien, plus tu as de gens, plus tu as d'habitations aussi. Du coup, plus tu as de petits points de flotte, parce que c'est forcément les eaux croupies, les petits points de flotte, les gouttières, les machins, c'est là où ça, c'est cadeau. Ok, je commence à mieux comprendre. Et attends, tu l'as chopé quatre fois. Mais alors, attends, ça t'a fait quoi en fait? À chaque fois, t'as fait bonjour, j'ai le palu, alors j'aimerais bien une petite piqûre. Comment ça se passe? C'est quoi le process?
Ouais, la première fois, du coup, j'ai fait un déni total, hein, parce que c'était un déni de palu. Et c'est ça qui a failli me rendre très mal. À la fin, vraiment, Déjà, j'avais des sueurs froides le soir, je ne dormais plus, j'avais des vertiges. Et les derniers symptômes que j'ai eus avant d'aller à l'hôpital, j'avais même la vision qui se noircissait et je commençais à tomber dans les vapes. Je ne suis jamais tombé dans les vapes de ma vie encore.
Ok.
Mais ça, c'est, tu vois, c'était, ça faisait une semaine et demie ou deux que j'étais infecté.
Ah
Sinon,
ouais, ok.
les fois suivantes, quand je l'attrapais, tu vois, dès que j'ai senti que j'avais la tête qui partait un peu en vrille, en fait, tu sens un peu comme si tu avais fumé, quoi. T'es un peu largué.
Ouais.
J'ai passé à la clinique, j'ai fait quelques piqûres, et puis basta, quoi.
Mais les gars, tu dis ça, genre, c'est bonjour, je voudrais une baguette. Tu sais, genre, les cliniques, ça se trouve facilement, parce que moi, je me dis toujours, ouais, t'es en brousse, t'es machin, enfin, je sais pas, c'est. Est-ce qu'ils ont des vaccins? Est-ce que les seringues sont OK? Enfin, tu vois, tu as toujours une image un peu des dispensaires. Oui, ben, on va réutiliser la piqûre de Mireille, là, parce qu'on n'en a plus. Enfin, tu vois, ça ne vous dérange pas? Enfin, évidemment, je caricature le trait, mais finalement, justement, déconstruis-nous aussi cette image, si c'est le cas.
Non, alors, y a des cliniques un peu partout. Et puis, même si c'est des cliniques un peu pas terribles, genre celle-là que j'ai fait à Pointe-Noire, c'était vraiment une clinique. C'était une clinique dans la ville, mais c'était vraiment à l'arrache, hein. Mais il a quand même ses produits, ils en ont partout de toute façon. Et non, il n'utilise pas les soins quand même, j'espère.
Ouais. Et alors, parce qu'on parle aussi, c'est quand même, j'imagine que tout le monde n'a pas accès à ces vaccins-là. C'est quoi le tarif? C'est quoi le tableau de chasse là, là-dessus?
Bah, ce n'est pas des vaccins, mais c'est des picouses. Mais oui, parce que tu vois, le tarif, c'est pour compter pour être tranquille, bien 10, 15 euros environ. Parce qu'après, peut-être. Ça dépend des pays, en fait. Des fois, ils te donnent 2-3 piqûres. Des fois, ils te donnent des médicaments en plus, des doliprane.
Ok. Ouais.
Ouais, avec okay. 15 euros.
Ce qui est énorme pour malheureusement beaucoup de cette population-là, souvent. Mais ce qui, voilà. Pour toi, ok, en tant que voyageur, tu es privilégié et c'est une somme que tu peux très, très simplement sortir. En tout cas, pour ça, en plus, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Ah ouais, donc ok, le mec. Et toi, le palu, tu l'as eu en Afrique? Ouais, 4 fois, ouais. Cette punchline est vraiment magnifique, Guilhem. Il faut que tu la ressortes. À un moment donné, celle-là, dans une soirée, quand tu reviendras, elle peut être très sympa à sortir. Non, sympa, moi, ouais, j'ai fait une petite piqûre. Incroyable.
D'ailleurs, un petit tip pour les prochains voyageurs en Afrique. Il y a le typhus aussi qui circule pas mal et qui a à peu près les mêmes symptômes que le palu. Donc, si vous faites des tests négatifs au palu, il faut penser au typhus et il faut faire les tests absolument. Voilà.
Et typhus, c'est un peu violent aussi, ça. Ah, que le nom, il est énervé, je trouve. Typhus, un truc qui est un peu mesquin, je trouve. Ça se soigne bien, parce que vu que tu as l'air au fait maintenant des maladies tropicales sur place, comment c'est quoi? C'est un petit comprimé? Comment on fait?
Oui, il me semble que c'est un comprimé. En fait, j'ai chopé au Nigeria et dès que j'ai senti la tête qui brille.
Tu l'as eu aussi?
Oui, j'ai eu aussi, bien sûr. C'est pour ça que j'en parle.
Ah, mais attends, toi, en fait, le Covid, quand tu es en train de voir, tu rigoles, en fait, toi. Ouais, Covid, ouais, c'est pas mal. Alors moi, j'ai plutôt testé le palu cette année, le typhus. Alors bientôt, j'espère, voilà, j'espère que je vais avoir la fièvre jaune, hein, Inch'Allah. Ah ouais, toi, t'es comme ça. Toi, t'essaies de te barder de un max d'anticorps, en fait. Ok. Ton passeport vaccinal, quand tu vas rentrer en France, il n'y aura plus de place, en fait. Ouais, mais...
ouais, c'est pas mal de choses. Pour des voyages.
J'aimerais qu'on... Alors, le but, c'est pas de faire ressortir ce qui va pas du tout, hein. Mais ça a été quoi les moments... peut-être dur et dark de ce voyage. Comment tu l'as traversé mentalement? Comment tu t'en es sorti? Qu'est-ce que tu en as retiré comme peut-être leçon, comme peut-être apprentissage sur toi-même?
J'ai une sacrée anecdote en Guinée-Bissau où je me suis garé dans la forêt et la nuit, hein, il y a deux chasseurs qui débarquent avec un flingue et des yeux rouges pétants. Donc je pense qu'il est bien fumé. Et en fait, il commence à me gueuler dessus en portugais parce qu'il parle portugais là-bas. Je comprenais rien. Et il y a un mec qui débarque et qui me parle en anglais, qui me dit "Open the car." Donc là, je me suis dit, ouvre la voiture. Je me suis dit merde quoi. Ça y est, je suis tombé dans un mauvais moment. Ils vont ouvrir la voiture, ils vont prendre tout ce qu'ils veulent et puis après ils vont se casser. De toute façon, ils ont deux flingues. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai dit non, tu vois. Mais je commençais à flipper vraiment. Je commençais à trembler et tout. Je sais pas, il y a un moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, attends, je ne comprends pas vraiment ce qu'ils me disent. Et ça se trouve, en fait, c'est moi qui leur fais peur. Et ça se trouve, ils veulent juste vérifier ce qu'il y a dans la voiture. Et d'un coup, j'ai commencé à rigoler avec eux, j'ai commencé à discuter, j'ai ouvert la voiture. Et c'est tout ce qu'ils voulaient, en fait. Ils avaient peur de moi, tu vois. Et comme ils avaient peur de moi, j'ai peur d'eux. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, tu vois, parce que ça aurait pu mettre vraiment dans la merde. Si j'étais parti avec la voiture, ils m'auraient tiré dessus. Alors qu'il n'y avait pas de raison, tu vois.
C'est fort. C'est archi fort ce côté, effectivement, où tu es là, tu te dis, ouais, c'est génial. Cette anecdote, je pense qu'elle est surpuissante parce qu'effectivement, En plus, tu vois des gars un peu fumés et tout, machin, avec des guns, tu étais au milieu de nulle part, tu dis waouh, wow, c'est bon, je vais me faire buter, ils vont tout prendre, alors qu'en fait, c'est toi qui es anormal. Tu ressembles à rien de ce qu'il y a autour, tu as une bagnole qui est pas comme les autres. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu viens voler? Qu'est-ce que tu viens emmener? C'est toi qui dois prouver que tu es normal en vrai. Et c'est ça qui est fort.
C'est ça. Je trouve ça. Mais, je remarque que si on flippe trop, on perd un peu la notion du sens, tu vois, on réfléchit pas assez bien. On n'a plus le recul de voir les choses comme il faut. Et ça peut nous mettre vraiment encore plus dans la merde. Donc, il faut toujours garder un peu ce calme et réfléchir, prendre du recul. Tu vois, là, vraiment, j'aurais pu me mettre dans la merde tout seul. Heureusement, c'est pareil.
Ouais, si tu as eu un mauvais réflexe, tu as paniqué, tu commences à prendre la bagnole et tout.
Voilà.
Est-ce que, au-delà de l'expérience et de la répétition de ce genre de situation qui fait que tu vas être plus à l'aise, on va dire, est-ce que tu as des petits tips, tu vois, aux gens à qui ça pourrait arriver s'il y a une situation qui est flippante, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là?
Alors déjà, c'est bête, mais l'esprit humain, il va toujours penser au pire. Il ne faut pas penser au pire, parce qu'il y a peu de chances que ce soit le pire. Il faut garder son calme, essayer de voir un peu tout le panel, tu vois. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ça peut être ça? Pas juste le pire. Ça peut être aussi, tu vois, dans ce cas-là, c'est moi qui fais peur. Tu vois, essayer de prendre du recul et voir toutes les options possibles. Et après, essayer de tâtonner, mais pas réfléchir avec la peur, tu vois, pas se fondre dedans, c'est pas bon. La peur, c'est pas bon.
Ouais, mais des fois, c'est évidemment, mais quand t'as deux mecs en pleine nuit avec deux guns qui arrivent, tu vois, fais de la cohérence cardiaque. Alors, attendez, wait, stop for it, I am very happy. Non, mais j'imagine qu'en fait, c'est là, je pense, où tu dis, comme tu dis, si tu penses au pire, si tu vas générer le pire, si tu restes calme, tu trouveras peut-être une solution, potentiellement. Je trouve ça vraiment génial. Et quand on continue sur les anecdotes peut-être un peu dark qui t'ont fait aussi grandir, est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête?
Ouais, j'en ai une autre aussi. Bon, c'est une autre anecdote, hein, mais...
Tant mieux.
Tant mieux.
Je suis content de savoir que tu n'as pas perdu une jambe, tu vois, sur une des anecdotes.
Okay. Et j'ai dormi vraiment dans une région un peu censée être chaude au Méditerranée, vraiment en bord de route dans le sable, parce que je pouvais rouler dans le sable était assez dur. Et voilà, je dors comme ça le soir, et puis d'un coup, en plein milieu de la nuit, je sens la voiture qui est secouée, tu vois. Il y a quelque chose qui secoue la voiture. Et tout de suite, je me suis dit, putain, il y a des gens, ils me cherchent. Tu vois, ils ont vu un touriste, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ouais. J'ai vraiment commencé à paniquer et je me suis dit, je passe à l'avant, je laisse la voiture fermée et puis je démarre en trompe. Tu vois.
Ouais.
Et puis pareil, j'ai eu un éclair d'un coup et je me suis dit, attends, il secoue la voiture, mais il ne sait pas d'ouvrir les portes. C'est un peu bizarre quand même. Et j'ai passé l'œil par un petit trou où je pouvais voir dehors et je vois la gueule d'une vache qui me regarde. je sais pas ce qu'elle
a. Gratter le fion. Ça se gratte le fion sur mon pare-choc.
Quand j'y pense, ça me fait toujours rire. Mais sur le moment, je me suis vraiment... Vraiment.
Non, mais tu sais, non, mais en vrai, t'es de nuit et tout, tu machins, t'entends toujours qu'il y a des trucs, des voleurs, des braqueurs, des bordels. Putain, c'est... Et oh non, c'est le trou de balle d'une vache. C'est le trou de balle d'une vache. C'est magnifique. C'est quoi la suite de ton voyage, Guilhem?
Là, ce qui est prévu, c'est que je vais en Angola, après en Namibie, Zambie, Botswana, Zimbabwe, tous ces pays, mais toute l'Afrique australe, et je remonte par l'Est jusqu'où je peux, parce que comme ça pète un peu au Soudan et au nord de l'Éthiopie, je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. Mais le but,
Sud-Soudan, apparemment, c'est vraiment incroyable, et c'est plutôt safe. Hein. Le Sud-Soudan, il n'y a pas de souci. L'Éthiopie, c'est vrai que j'entends souvent que les mecs ont toujours un guide armé. De quoi?
Je suis étonné parce que je pensais que c'était vraiment localisé vers l'Érythrée. Non, attends, c'est pas l'Érythrée, c'est Tigré.
C'est pareil, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'il faut, c'est les traditions. Enfin, tu vois, les mecs, parce que je sais qu'en Éthiopie, on va dire des tribus guerrières. Des fois, juste, ils portent des armes parce qu'ils portent des armes, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Mais On espère que... Alors, on va revenir sur les deux paramètres qui font que le voyage peut durer. La bagnole, elle en est où, en fait? Tu l'as réparée souvent? Est-ce qu'elle tient? Oh, putain, la vache, ouais, ça rigole, du coup.
la bagnole, ça fait quelques jours que c'est l'arrêt cardiaque et que je la réanime tous les jours. Mais ça va.
Ouais.
La voiture est vraiment nickel. Il y a juste une pièce de pompe à injection que je ne trouve pas. Et je ne sais pas comment je vais me démerder parce que la voiture est cale en ce moment à cause de ça. Mais elle roule. Elle roule très bien.
Mais alors, à part ça, donc c'est ce qui fait que tu as dû rester aussi à Kinshasa et que malheureusement, à cause de ça, on peut faire ce podcast parce que tu as dû rester et tu ne bouges pas. Mais est-ce que tu as eu d'autres merdes avec la voiture ou honnêtement, ça roule comme le pied?
Voilà, on peut faire deux heures là-dessus. Hein.
Ah bon, non, mais attends, tu as dit qu'elle roulait nickel et tout. Alors en fait, tu as plein de merde.
Mais en fait, elle roule nickel parce que j'ai passé 3 mois à la réparer à Pointe-Noire. Hein. J'ai refait tout le moteur, segmentation, j'ai refait les injecteurs, le turbo, j'ai supprimé, j'ai carrément viré parce que ça m'a saoulé. Voilà.
Attends. Ça veut dire qu'en fait, excuse-moi, mais t'étais sur tes tutos YouTube ou entre guillemets, la mécanique, ça te parle et que t'es plutôt fort là-dessus?
Ben, encore une fois, là, tu vois, je suis parti de France sans même savoir changer un pneu ou faire une vidange. Et aujourd'hui...
Tu blagues avec moi.
Je te jure que c'est vrai.
Tu blagues avec moi, mec. Tu t'as dit que tu as changé ton moteur tout seul et que tu ne savais pas changer un pneu. Parce que moi, je suis dans cette situation-là, tu vois. Et c'est impossible que je puisse changer un moteur. Enfin, tu as fait ça tout seul, genre tuto YouTube. Vrai.
Non, moi, je n'ai pas fait ça. Non, il faut un maître de la segmentation. Ça, je fais la segmentation. Mais moi, je diagnostique, je guide et je répare si c'est dans mes cordes. Mais la segmentation, non, c'est impossible. La segmentation, c'est un délire.
Okay. La segmentation, c'est les trucs du moteur, c'est ça? Parce que là, pareil, tu m'as perdu. Mais...
Bah, disons que s'il y a le pire à faire sur ta voiture, c'est la segmentation. Parce qu'il faut mettre le moteur à plat, il faut enlever les pistons, il faut enlever toutes les pièces du moteur. Tu refais le moteur à neuf finalement, tu repars sur de l'usine.
Ah ok, mais attends, mais là c'est pareil, toi qui as un petit budget, ça te coûte combien toutes ces réparations?
Bah heureusement que ici c'est la main d'œuvre qui ne coûte pas cher, tu vois. Donc c'est des pièces qui coûtent un peu cher et encore là ça va, je me suis bien débrouillé. Je pense que j'en ai pour juste la segmentation, j'ai dû en avoir pour 200 balles, je pense, tu vois.
What? J'ai refait tout mon moteur à neuf pour 200 balles, on l'a passé une semaine dessus. Ah ouais, voilà. D'accord, ok. Et ça va d'ailleurs pour les prix, tu arrives à négocier des prix accessibles ou à la base 10 000 euros?
Bah, le petit type ici, c'est on te donne un prix, tu prends 50% en dessous, voilà, et tu restes 50. Dessus.
Ça
ah ouais,
va,
50% de plus, tu vois.
C'est surtout les Nigériens. Ah ouais, ah, ils sont chauds. Ils sont chauds, les Nigériens?
Les Nigériens, ils sont chauds, ouais. C'est les maîtres, hein. C'est les maîtres. Te donne des prix des fois, moi je divise par 3. Hein. En fait, dès que tu connais les prix, ça va, tu vois. Mais quand tu connais pas trop les prix, tu peux assez vite te faire avoir.
Mais comment tu fais pour connaître les prix? Tu demandes à des locaux à qui tu n'as rien à demander, c'est ça? Enfin, à qui.
Ouais, c'est ça, ouais. Souvent, je demande à des locaux et puis des fois, je bluffe, tu vois. Des fois, il me dit le prix, c'est ça. Je dis non, je connais, c'est au moins ça, tu vois. Ça passe ou ça passe pas. Mais,
ok. Et comme ça, tu vois à peu près. Voilà. Et du coup, tu es en mode réparation okay, assez régulièrement, mais finalement, ça ne crée pas ton budget parce que ça reste des choses qui parce que tu es en Afrique, sont dans un budget raisonnable. Il te reste combien? Parce que tu es parti avec combien au total de budget? Genre quoi, 10 000, 15 000, 8 000, 20 000?
En fait, je suis parti avec 10 000, mais je devais normalement, dans le projet, je devais travailler en Afrique du Sud comme plongeur, parce que j'ai mis diplôme plongeur. Okay. Plongeur dans l'eau, un plongeur restaurant.
J'allais dire, ah, pour un diplôme pour être à la plonge d'un restaurant, je ne savais pas. Non, moi, je l'ai fait tranquille, tu vois, sans diplôme. Ok. T'es dive master, Guylaine, t'es dive master?
Exactement, dive master.
Ah, pas mal.
Et du coup, avec le corona, je me suis fait arrêter au Cameroun, où j'ai passé 3 mois, et puis après, je suis rentré, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé en France pour remettre de côté. Et je suis reparti avec 10 000 euros. Donc, en fait, le projet, c'était de tout faire avec 20 000 euros. Tu vois.
Ah, attends, parce que là, tout à coup, on découvre un nouveau chapitre, même si on va arriver sur la fin de ce podcast. Je comprends pas. Tu t'es resté 3 mois au Cameroun. What? Qu'est-ce qui s'est passé? What?
Quand il y a eu le corona, c'était la grosse panique. Pour avoir un avion, c'était la merde. J'ai passé vraiment 3 mois comme ça, à rien faire tous les jours. en attendant.
Au Cameroun.
Au Cameroun, ouais.
Parce c'est qu'il avait... c'est très long, 3 mois à rien faire. Enfin, où t'attends. C'est très, 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 très long.
Bah, j'ai pris j'ai rattrapé mon retard que j'avais sur Instagram. Donc, c'était pas plus mal.
Ah, le mec, il faisait ses petits posts, tranquille, pépère. Et hop, ça a écrit, ça fait ses petites, ça retouche ses petites photos et tout. Mais du coup, t'as été rapatrié, c'est ça? T'es rentré pour pouvoir rebosser, c'est ça? Un petit peu?
Ouais, c'est ça, le temps que la situation s'ouvre un peu. Et puis là, je suis rentré, je suis revenu en Afrique en août, je crois.
Et du coup, t'as laissé ta voiture où? Question con, mais.
dans le parking d'un ami. Voilà.
Puis, en 3 mois, tu peux te faire des potes, j'avoue.
Ah oui, mais même, en moins que ça.
Ok, génial. Ah ouais, t'as pas lâché. Ok, super. Et là, t'as encore une timeline de combien de temps? Tu penses que ton voyage, il va durer à peu près combien de temps à vue de nez?
Je pense entre 6 et 8 mois parce que finalement, je vais pas aller en Afrique du Sud. C'était pas le pays qui m'intéresse le plus. Donc, je vais zapper l'Afrique du Sud et puis j'ai remonté par l'Est jusqu'à ce que je puisse. Donc, ça dépend, tu vois. Si je peux aller jusqu'en Égypte, ça va être plutôt 8 ou 10 mois. Sinon, ça va être 6 ou 8 jusqu'au Soudan.
Donc, ça veut dire que t'es prêt à laisser ta titine quelque part?
Quand le voyage est terminé?
Ouais. Parce que si t'es bloqué, admettons, tu peux pas la ramener ou je sais pas, tu peux pas la mettre dans un avion cargo?
Non, j'ai pas l'argent pour ça. Je pense que si je peux plus continuer, je vends la voiture et puis je passe sur un autre projet. Mais j'aimerais au moins être au niveau de l'Éthiopie, tu vois. Au moins Éthiopie-Soudan, pour moi, j'aurais réalisé.
Attends, t'arriverais à vendre cette voiture? Oh la vache. C'est fort.
Ouais. Mais de toute façon, j'arriverais pas à rouler en France avec.
Ah j'adore. Je ne peux pas la ramener de toute façon, en fait. Il y a un trou en y interne sur le plancher. De toute façon, ça ne passera pas le contrôle technique. Là, tu n'as pas la pastille verte, j'imagine.
Ah, je n'ai plus rien. J'ai même plus d'assurance. Là, j'ai fait une fausse assurance pour aller ici. C'est plus simple.
Oh, c'est magnifique. J'adore. Écoute, Guilhem, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager ce voyage qui est hors du commun et c'est vrai, ce qui n'est pas commun. C'est pas quelque chose qui est fait assez. C'est pas le continent africain est incroyable et tu redores la vraie image des Africains qui sont accueillants, qui sont sympas, qui claquent le sourire et les petits beaux moments avec toi et tu te sens safe. Et ça, c'est beau, même dans des pays où on s'était dit waouh, c'est la guérilla urbaine. Donc merci pour ça. Bravo de faire ce genre d'aventure aussi. Je pense qu'il faut beaucoup de courage d'aller vers l'inconnu. C'est même pas l'inconnu, c'est face à des choses négatives apparemment qui le sont et d'aller le déconstruire. Donc franchement, bravo à toi. Évidemment, internaute, si tu veux suivre les aventures de Guilhem, son lien, il est dans la description du podcast. Est-ce que tu peux nous redire aussi à l'oral si on veut te retrouver sur Insta ou sur n'importe quel réseau social? Comme ça, les gens, ils pourront cliquer directement. Oui.
Bien sûr, j'ai un blog et un Instagram au même nom. C'est The Wild Trip en anglais. Donc, The Wild Trip, c'est le voyage sauvage. Wild Trip.
Ouais, il est plutôt bien trouvé. The Wild Trip sur Insta, encore une fois, évidemment. Les liens sont dans la description du podcast. Je te souhaite, j'allais dire bonne route, mais avant, je te souhaite bonne réparation en vrai. Inch'Allah, oui. La pompe, elle va se repomper comme il faut. Il y aura la petite pièce manquante qui fait chier, qui j'espère va arriver vite ou que tu vas la trouver vite et impatient de suivre la suite de tes aventures parce que franchement c'est tout ce qu'on aime et tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est magique. Donc bravo de partager toutes ces belles valeurs et de déconstruire tous ces sales stéréotypes. Merci beaucoup à toi, Guilhem.
Merci beaucoup à toi, c'était génial vraiment.
Ciao.